Voilà, mais bienvenue à vous pour cette soirée autour des manuscrits de la Mer Morte et la lumière qu'ils apportent sur cette figure de Jésus. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Madame Cathel Berthelot, historienne spécialiste du judaïsme ancien, qui va donc nous partager un peu les fruits de tout ce travail à propos des manuscrits de la Mer Morte. Voilà. Donc, Sylvie de Villepierre, qui enseigne ici l'écriture sainte, animera cette soirée. Hein. Dans un premier temps, nous allons écouter Madame Cathel Berthelot, qui a prévu une intervention à peu près autour de 50 minutes. Hein. Puis après, il y aura un temps d'échange assez conséquent, donc qui permettra de poser vos questions. Hein. Voilà. Cette conférence sera enregistrée et elle sera retransmise sur le site, vous pourrez la trouver après sur le site du Centre Sèvres, hein, si vous voulez la réécouter. Voilà, dernière petite précision technique, je vous signale qu'à la porte, il y a des urnes, donc la soirée est gratuite, mais si vous souhaitez une participation financière, eh bien vous pouvez donner librement. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je laisse la parole à Sylvie et à Madame Berthelot.
Bonsoir. Est-ce que vous acceptez que je vous présente ? Je vais essayer d'être courte, mais lorsqu'on vous regarde sur Internet, c'est impressionnant le nombre de travaux sur lesquels vous travaillez et ce que vous avez publié. Alors, je commence. Vous êtes diplômé d'HEC, donc pas au départ exactement ce que vous allez nous présenter. Dans le même temps, vous avez effectué des études de lettres, et c'est à la suite d'un voyage en Israël et la découverte des textes bibliques que vous avez entamé un cursus d'histoire des religions à la Sorbonne, Paris 4. Puis vous avez passé quelques années au Centre Orion des études qumraniennes de l'Université hébraïque de Jérusalem, et votre doctorat porte sur Israël et l'humanité dans la pensée juive à l'époque hellénistique et romaine. Aujourd'hui, vous travaillez au CNRS, au Centre Paul-Albert Février d'Aix-en-Provence, et votre champ de recherche recouvre la notion, alors je crois que c'est un des champs de recherche, recouvre la notion d'humanisme dans la philosophie grecque et la pensée juive ancienne, et vous vous intéressez à la conquête de Canaan par les Hébreux dans les récits bibliques. Et aussi à la façon dont a été pensée l'universalité de la loi juive. Bon, je m'arrête là, juste pour dire qu'il y a un troisième volume de l'édition bilingue des manuscrits de la Mer Morte qui va sortir en 2013, et au CERF, et aussi que vous co-dirigez avec Thierry Legrand et Michael Langlois, c'est cela, et aussi un travail sur les trois grands monothéismes et ce qu'ils ont en commun. Et qui doit, je crois, sortir aussi en 2013. Voilà, ce soir, vous êtes venus pour écouter Madame Berthelot sur Jésus à la lumière des manuscrits de la Mer Morte.
Merci. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, je vais vous dire d'emblée quelle est ma question. Ma question, c'est quelle est l'originalité du message de Jésus dans le contexte du judaïsme du 1er siècle ? Pour répondre à cette question, il faut connaître le judaïsme du 1er siècle. Pour connaître le judaïsme du 1er siècle, il faut savoir de quelle documentation on dispose. Une des choses avec lesquelles on a traditionnellement beaucoup travaillé, c'était les pseudépigraphes, les apocalypses, et puis la littérature rabbinique. Mais il y a un petit problème avec la littérature rabbinique, c'est qu'elle est largement postérieure dans sa rédaction, dans sa mise par écrit, au Nouveau Testament lui-même. Postérieure d'au moins un siècle en ce qui concerne la Mishnah et de plusieurs siècles en ce qui concerne le Talmud de Jérusalem ou de Babylone. Le grand mérite des manuscrits de la Mer Morte, des manuscrits de Qumran, c'est de nous donner une documentation contemporaine des débuts du christianisme. Les manuscrits de Qumran sont datés pour certains déjà de la fin du 3e siècle avant notre ère et ils vont jusqu'en gros l'an 70 de notre ère. Donc c'est une documentation de première main, ce sont des rouleaux que Jésus lui-même aurait pu tenir dans ses mains, pour la quasi-totalité. Et vous voyez bien tout de suite l'avantage immense pour l'historien d'avoir une documentation précisément datée. Alors, je dois quand même tout de suite clarifier un certain nombre de malentendus qui ont ponctué l'histoire de la recherche sur Qumran concernant l'identité de ces manuscrits et notamment leur rapport avec le Nouveau Testament. Et je voudrais dire d'emblée qu'à Qumran, nous avons exclusivement une bibliothèque de livres juifs et que nous n'avons aucun manuscrit du Nouveau Testament, d'aucun livre du Nouveau Testament. Le bruit a couru à une époque qu'on avait un fragment de l'évangile de Marc, parce que dans la grotte numéro 7, il y a des textes en grec, malheureusement en très très mauvais état, mais il n'y a absolument aucun indice probant pour identifier ce manuscrit avec l'évangile de Marc. Il s'agit donc exclusivement de textes juifs antérieurs, ou disons sans lien avec le christianisme, sans lien direct. Disons en gros 85% en hébreu, 13% en araméen, 2% en grec. Je précise aussi d'emblée qu'aucun des manuscrits de Qumran ne mentionne Jésus, ni Jean-Baptiste, ni l'apôtre Paul, ni aucune figure du premier christianisme. Vous savez par ailleurs peut-être que le Nouveau Testament ne fait jamais référence à ce groupe dont on va parler un peu longuement ce soir, les Esséniens, alors que le Nouveau Testament parle de Sadducéens, de Pharisiens, même d'Hérodiens et d'autres groupes juifs de l'époque. On va s'interroger ensemble plus tard sur pourquoi le Nouveau Testament peut-être ne parle pas explicitement des Esséniens. Alors, ce premier point étant acquis, j'insiste donc vraiment lourdement sur le fait que la littérature de Qumran, son intérêt premier pour la question du Nouveau Testament et de la figure de Jésus, c'est de nous procurer des moyens d'une contextualisation historique. Il ne s'agit pas d'influence directe, mais il s'agit d'aborder le milieu juif dans lequel Jésus a vécu et dans lequel les premières communautés chrétiennes sont apparues, se sont développées. Alors, il faut évidemment dire quelques mots de la question du lien entre le site de Qumran et la collection de manuscrits trouvés dans les 11 grottes à proximité du site archéologique de Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte, pas très loin de Jérusalem, et donc ce courant appelé Essénien, que nous connaissons par Flavius Joseph, un historien juif de la fin du 1er siècle de notre ère, qui nous dit qu'au milieu du 2e siècle avant, il y avait trois écoles dans le judaïsme, les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Et Flavius Joseph nous décrit assez longuement les croyances, les pratiques des Esséniens. Nous avons aussi quelques descriptions des Esséniens moins fiables chez Philon d'Alexandrie, exégète et philosophe juif vivant à Alexandrie à l'époque de Jésus, qui lui aussi parle des Esséniens, qui les présente comme les philosophes du judaïsme, une sorte d'élite religieuse et spirituelle. Mais bon, on n'est même pas sûr que Philon soit jamais allé en Judée, à Jérusalem. On n'est pas sûr qu'il ait vraiment rencontré des Esséniens. Il faut prendre sa description avec quelques précautions. Et puis enfin, ce groupe nous est décrit par Pline l'Ancien, donc un auteur romain, qui lui s'est rendu en Judée et déclare avoir vu sur la rive nord-ouest de la mer Morte, tiens donc, un groupe d'hommes célibataires vivant une vie de sagesse. Alors sa description, elle est également très exagérée. Il dit qu'ils sont là depuis, que cette communauté existe depuis à peu près 10 000 ans. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas. Donc là aussi, bon, il faut prendre les choses avec distance. On est un peu dans une description idéalisée d'un groupe d'hommes ascétiques, philosophes, etc. Mais ce qui nous intéresse dans la description de Pline, c'est évidemment cette localisation sur la rive ouest de la mer Morte, au-dessus d'En Gedi, qui correspond très bien avec le site de Qumran. Néanmoins, la raison principale pour laquelle on peut rapprocher les Esséniens des auteurs de certains manuscrits de Qumran, je dis bien certains et pas du tout la majorité, c'est les parallèles frappants entre la description que donne Flavius Joseph du fonctionnement de ce groupe essénien, de leur organisation communautaire, et la description qui en est donnée dans les manuscrits eux-mêmes. Par exemple, un des manuscrits célèbres de Qumran, la règle de la communauté, qui dit parfaitement en quoi elle consiste. Il s'agit d'une règle qui codifie le fonctionnement de communautés de juifs extrêmement pieux, qui observent la loi de manière extrêmement stricte et qui sont marqués par un judaïsme de type sacerdotal. C'est visiblement un mouvement d'origine sacerdotale. Et quand on compare les descriptions dans les textes de Qumran eux-mêmes et la description de Flavius Joseph, les convergences sont absolument extraordinaires. Elles sont d'autant plus extraordinaires que les manuscrits en question, règle de la communauté, ou l'écrit de Damas, autre grand texte célèbre lié à la communauté, décrivant un fonctionnement communautaire, ces textes, les copies les plus anciennes que nous avons datent de la fin du IIe siècle avant notre ère, alors que Flavius Joseph, lui, écrit à la fin du Ier siècle après. C'est-à-dire que deux siècles les séparent, sachant qu'une date de copie n'est pas forcément une date de composition. Donc, je vous dis, au moins deux siècles séparent ces textes. Vous imaginez bien que si vous prenez n'importe quel courant religieux dans l'histoire, si vous le prenez à un moment T de son histoire et si vous le prenez à deux siècles après, vous aurez quelques évolutions significatives. Pensez simplement au christianisme, entre l'an 50 et l'an 250, par exemple. Donc vous imaginez bien qu'on peut s'attendre à quelques petites variantes entre la description de Joseph et la description des manuscrits. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y a des convergences frappantes. C'est donc l'argument principal pour identifier derrière les groupes qui ont rédigé les textes communautaires de Qumran, ces Esséniens dont parlent les sources anciennes. L'identification ne repose pas d'abord sur le site archéologique. C'est important parce qu'il y a eu beaucoup de remises en question ces derniers temps concernant l'identification du site, l'analyse du site archéologique et le lien entre les manuscrits et le site. Mais même s'il n'y avait aucun lien entre le site et les manuscrits, même si on n'avait que les manuscrits, la simple comparaison entre les manuscrits et Joseph permettrait de conclure que, en gros, les auteurs des manuscrits communautaires de Qumran relevaient de ce judaïsme essénien que nous connaissons par ailleurs. Le quatrième point introductif, c'est que, comme vous le savez sans doute, les Esséniens ont été comparés aux chrétiens ou vice-versa. C'est la fameuse phrase d'Ernest Renan, professeur au Collège de France à la fin du XIXe siècle, disant « Le christianisme est un essénisme qui a réussi ». Je ne partage pas du tout l'opinion d'Ernest Renan et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce soir. Mais ce rapprochement a été fait très souvent et d'ailleurs y compris très récemment encore par le pape Benoît XVI quand il était encore pape, qui dans un de ses ouvrages sur Jésus a évoqué les Esséniens comme des sortes de proto-chrétiens ou avec toujours cette image d'une sorte de vie monastique au désert qui aurait, disons, qui est une sorte d'anticipation des moines chrétiens du 4e, 5e siècle. Je vais essayer de vous montrer pourquoi ces rapprochements sont quand même extrêmement superficiels. Mais nous pourrons en discuter par la suite. C'est sûr qu'il y a un certain nombre d'éléments qui méritent discussion, comme par exemple les repas communautaires dans les textes de Qumran, avec la bénédiction du pain et du vin, évidemment juive avant toute chose. Et puis, la notion de communauté comme un temple d'homme ou un temple spirituel, qui évidemment peut évoquer des métaphores pauliniennes. Ou encore, troisième point, la mise en commun des biens entre membres de la communauté dans les textes de Qumran et dans les sources extérieures. Mais dont là aussi, nous verrons qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, qu'il faut comparer de manière prudente et attentive, puisque la mise en commun des biens à Qumran, par exemple, est totalement conditionné à l'appartenance à la communauté dans toutes ses règles de pureté rituelle, avec une intégration très progressive des biens des personnes qui veulent faire partie de la communauté, selon des stades d'initiation extrêmement codifiés. Et il n'est pas question, par exemple, de mettre ces biens en commun avec des personnes qui voudraient simplement faire un don à la communauté de l'extérieur, puisque celle-ci resterait profondément impur. Mais maintenant, je voudrais en venir à Jésus lui-même, car en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les quelques exemples que je viens de mentionner, qui font partie des exemples les plus courants qu'on évoque quand on compare essénisme et christianisme, il est question de communauté. Communauté comme temple d'homme, mise en commun des biens, etc. Mais quid de la figure de Jésus lui-même ? Alors, à propos de Jésus aussi, on a fait toutes sortes de rapprochements. Et je voudrais commencer par deux exemples de la façon dont la lecture des textes de Qumran peut éclairer la figure ou l'enseignement de Jésus, pour en souligner soit le caractère spécifique, soit pour en mettre en lumière le côté non spécifique dans le contexte de son époque. Alors, tout d'abord, il y a un texte, c'est un texte hébreu du 1er siècle avant, dont le manuscrit est daté du 1er siècle avant notre ère. Alors, dans notre jargon de Qumranologue, c'est le manuscrit 4Q525, ce qui veut tout simplement dire qu'il vient de Qumran, Q, de la grotte numéro 4, et que c'est le manuscrit numéro 525. C'est un manuscrit qu'on a appelé Béatitude, qui a été édité par mon collègue du CNRS, Émile Puech, et qui est donc une énumération de béatitudes. Alors, je vous lis la traduction française de ce texte, et nous allons voir comment ça peut éventuellement résonner par rapport à ce que nous savons des béatitudes du Nouveau Testament. Heureux celui qui dit la vérité avec un cœur pur et ne calomnie pas avec sa langue. Heureux ceux qui s'attachent à ses décrets, alors il s'agit visiblement de la sagesse ou de la loi, et ne s'attachent pas à des voies de perversité. Heureux ceux qui se réjouissent grâce à elle et ne se répandent pas dans des voies de folie. Heureux ceux qui la cherchent avec les mains pures et ne la recherchent pas avec un cœur fourbe. Heureux l'homme qui a atteint la sagesse, qui marche dans la loi du Très-Haut et applique son cœur à ses voies, qui s'attache à ses leçons et dans ses corrections toujours se plaît, et qui ne la repousse pas dans l'affliction de ses malheurs et au temps de la détresse ne l'abandonne pas, qui ne l'oublie pas au jour d'effroi et dans l'affliction de son âme ne la réprouve pas. Car toujours il pense à elle, et dans son malheur il médite sur elle. Alors, je ne sais pas si vous avez les béatitudes de Matthieu et de Luc bien présentes à l'esprit. Je vous relis très rapidement un peu Matthieu et Luc. Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils auront la terre en partage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, etc. Et chez Luc, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous mettra à l'écart, qu'on vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Je saute le verset 23. Les béatitudes chez Luc ont un pendant négatif. Malheureux êtes-vous, vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous, vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux êtes-vous, vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Alors bien sûr, ce serait intéressant de vous donner la parole, de vous faire travailler comme mes étudiants et de vous demander qu'est-ce qui vous frappe à la lecture de ces textes sur ce qu'ils ont à la fois en commun et ce qui les différencie. Parce que finalement, le comparatisme vise autant à comprendre les différences que les similitudes. Mais comme nous sommes un peu trop nombreux pour faire cet exercice de séminaire, je vais aller directement aux conclusions. Et donc dire, qu'est-ce qui doit nous frapper à la lecture de ces textes, c'est que dans le texte de Qumran, c'est centré sur la loi, sur la sagesse, et nous sommes finalement dans un enseignement de sagesse extrêmement traditionnel, comme nous le trouvons aussi déjà dans les psaumes, qui, je vous le rappelle, utilisent déjà la forme littéraire de la béatitude. Le psaume 1, « Heureux celui qui ne s'assied pas au banc des pécheurs ». C'est tout à fait similaire à ce qu'on lit dans le texte de Qumran. Dans le texte, dans les béatitudes de Matthieu, nous avons le cas de figure de la persécution, mais plutôt un accent sur les vertus, c'est-à-dire celui qui recherche la paix, la justice, etc. Chez Luc, de manière très intéressante, nous avons encore un autre cas de figure, puisqu'il s'agit uniquement de personnes en souffrance, qui vivent de véritables souffrances sociales, hein, la pauvreté, la faim, la persécution. Chez Luc, il n'y a même plus aucune référence à un mérite quelconque, hein, que ce soit un mérite religieux, un mérite spirituel. Il s'agit uniquement de personnes véritablement souffrantes. Donc vous voyez que nous avons ici trois cas de figure différents, et la différence centrale entre le texte de Qumran d'une part et les textes du Nouveau Testament de l'autre, c'est l'absence de référence à la loi dans les textes du Nouveau Testament. On n'est plus déjà dans un discours sapientiel autour de la loi comme on a dans la Bible hébraïque et à Qumran. Donc ici, nous sommes dans un cas où la comparaison entre un texte de Qumran et les textes des évangiles nous permet de comprendre la spécificité, la particularité des textes du Nouveau Testament. En quoi sont-ils différents de l'enseignement juif traditionnel de l'époque? Mais maintenant, je vais vous présenter un cas inverse, avec un autre texte de Qumran, un texte en araméen, dont la copie est également du 1er siècle avant notre ère, qui s'appelle l'Apocalypse araméenne. On l'a aussi appelé le texte du Fils de Dieu, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il s'agit d'un texte qui envisage donc la fin des temps et le rôle du Messie. Visiblement, le Messie davidique politique. Et ce texte dit « Il sera appelé le Fils de Dieu. Ils l'appelleront Fils du Très-Haut. Comme les étoiles filantes que tu as vues, tel sera leur royaume. Ils domineront pour une période d'années sur la terre et écraseront tout le monde. Un peuple écrasera un peuple et une nation écrasera une autre nation, jusqu'à ce que le peuple de Dieu se lève et que tout se repose du glaive. Son royaume sera un royaume éternel et il sera juste dans toutes ses voies. Il jugera la terre selon la justice et tous feront la paix. Le glaive disparaîtra de la terre et chaque nation s'inclinera devant lui. Quant au grand Dieu, avec son aide, il fera la guerre et il livrera tous les peuples à son pouvoir. Tous, il les jettera à ses pieds. Son règne sera un règne éternel. » J'imagine que ce texte résonne à vos oreilles de manière un peu familière, même si c'est la première fois que vous l'entendez. Tout simplement parce qu'il vous rappelle probablement l'annonce faite à Marie dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 32-35. « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » C'est quand même assez extraordinaire que dans ces deux textes, le Messie est appelé à la fois Fils de Dieu et Fils du Très-Haut. Ce sont exactement les mêmes expressions, la seule différence que dans un cas c'est en araméen et dans l'autre en grec. De plus, nous avons dans les deux cas une même référence au chapitre 7 du livre de Daniel, avec l'idée notamment que son royaume sera un royaume éternel, son règne n'aura pas de fin. En fait, c'est une référence assez directe à Daniel 7,14, hein, le fils de l'homme qui vient sur les nuées. Toute la souveraineté lui est donnée, sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Qu'est-ce que cette comparaison nous enseigne? Faut-il en déduire une influence directe de ce texte en araméen de Qumran sur l'évangile de Luc? Pour toutes sortes de raisons, c'est assez improbable. On ne sait même pas d'ailleurs si l'auteur de l'évangile de Luc pouvait lire l'araméen. Et on ne sait pas très bien comment ce texte aurait pu lui parvenir. Ce n'est pas totalement exclu, ce n'est pas non plus extrêmement probable. Il existe une manière plus vraisemblable d'expliquer cette proximité entre les deux textes, qui est que nous avons là tout simplement une tradition juive. Une tradition juive, attestée par ce texte de Qumran, et qui a des racines évidemment bibliques, et que donc qui nous montre tout simplement que, à l'époque de Jésus, l'attente d'un Messie fils de Dieu est une chose qui est totalement pensable dans le contexte juif de son temps. On n'est pas là dans une invention des rédacteurs des évangiles ou bien une influence d'un milieu hellénistique, juif hellénistique. On est vraiment dans la droite ligne d'une culture juive palestinienne, donc le milieu même où Jésus a évolué. Donc dans ce cas, on conclut à une non-spécificité de l'enseignement du Nouveau Testament, mais au contraire à son enracinement dans une tradition juive attestée. Et j'ajouterai juste en post-scriptum que finalement la notion du Messie davidique comme fils de Dieu peut tout simplement remonter au deuxième livre de Samuel, à l'oracle de Nathan à David, quand il lui annonce qu'il y aura toujours un de ses descendants sur son trône et que Dieu le considérera comme son fils, c'est-à-dire Dieu sera pour lui un père. Déjà dans 2 Samuel 7. Donc on est là dans une tradition cohérente dont les racines remontent à la Bible hébraïque, qui a des témoignages donc à Qumran, et le texte lui-même pourrait être plus ancien, hein, remonté au 2e, voire au 3e siècle avant, et qui montre que finalement, l'accueil réservé à Jésus comme Messie, fils de David, le fait de l'appeler fils de Dieu, se comprend parfaitement bien dans le milieu juif de l'époque. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que c'est une chose qui ne va pas du tout de soi si vous pensez aux réactions que peuvent avoir des juifs aujourd'hui par rapport à l'appellation de fils de Dieu pour le Messie. Une des choses qui est justement un point de divergence fort entre juifs et chrétiens, c'est bien cette notion de fils de Dieu, en tout cas évidemment telle qu'elle a été interprétée par la suite dans la tradition chrétienne. Alors ça pose évidemment la question, quel Messie fut en fait Jésus ? Et les textes de Qumran nous renseignent aussi sur d'autres types de conceptions messianiques à l'époque, avec notamment une figure peut-être de Messie sacerdotal, de Messie prêtre. Et on voit bien que dans le cas de Jésus, nous sommes dans la lignée du Messie davidique politique, et pas du tout dans un Messie sacerdotal, comme on peut l'avoir dans certains textes communautaires de Qumran. Et alors maintenant, je voudrais voir avec vous pour quelles raisons je défendrai personnellement la thèse selon laquelle Jésus était en fait plutôt un pharisien libéral opposé aux idées esséniennes, extrêmement éloigné des milieux esséniens. Alors il y a à peu près 6 raisons. La première, elle n'est pas totalement probante, elle est géographique. Flavius Josèphe et Philon nous disent tous les deux que les Esséniens sont dans les villes et les villages de Judée, et uniquement de Judée. Pline, lui, nous parle simplement d'une communauté sur le bord de la mer Morte. Nous n'avons aucune attestation d'une présence des Esséniens en dehors de la Judée. Certains ont pensé que les thérapeutes, un groupe dont parle Philon d'Alexandrie, qui est dans le désert d'Égypte, pourrait avoir un lien avec les Esséniens. Bon, c'est un débat en soi. Personnellement, je ne suis pas convaincue, mais on pourra revenir, si vous voulez, sur ce sujet. Donc, globalement, c'est la Judée. Or, Jésus, c'est un Galiléen. Ah, bien sûr, on me dirait qu'il est né à Bethléem, certes, et on sait pourquoi, puisqu'il faut bien construire narrativement cette filiation davidique, qui justement se rapporte à son identité messianique, mais globalement, c'est plutôt un milieu galiléen. Et la Galilée est bien loin de Jérusalem, et elle est beaucoup plus sous le contrôle des pharisiens que de n'importe quel autre groupe qu'on connaît à l'époque. On voit Jésus dans des synagogues, d'après les récits évangéliques, dans des synagogues en Galilée, discutant avec des juifs qui semblent plutôt d'obédience pharisienne, et c'est assez cohérent. Bien sûr, Jésus après vient à Jérusalem, il vient en Judée, et là il y a possibilité de rencontre et de contact avec des Esséniens. Mais dans son milieu d'origine, il est peu probable qu'il ait été exposé à ce type de judaïsme. La deuxième raison, elle touche à quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus incontestable, qui est la différence d'approche vis-à-vis de la loi juive. Donc la loi, c'est-à-dire à l'époque ce qu'on appelle la halakha, plutôt l'interprétation des lois bibliques telle qu'elle se développe déjà à l'époque du Second Temple, et puis c'est ce qui sera codifié bien plus tard, dans le Talmud, par exemple. Le Talmud sont vraiment plutôt des textes de halakha. Donc l'interprétation des lois. Dans les textes de Qumran, donc nous avons à la fois, par exemple dans un texte comme l'écrit de Damas, nous avons à la fois une partie historique sur la manière dont la communauté se développe, se structure, et puis nous avons un certain nombre de points de halakha, c'est-à-dire des interprétations des lois bibliques, où la communauté justement estime nécessaire de clarifier le sens à donner à certaines lois et comment il faut les observer, comment est-ce qu'il faut pratiquer les commandements. Et la halakha des textes de Qumran est une halakha très stricte, très rigoriste. Il n'y a absolument aucun laxisme. Et notamment, c'est une halakha très stricte pour tout ce qui touche à la pureté rituelle. J'y reviendrai. Je voudrais, dans un premier temps, simplement voir avec vous le cas du Shabbat, de l'observance du Shabbat, du sabbat. Donc, nous avons un passage de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, où il parle des Esséniens, et où il dit qu'ils ont une observation très stricte du Shabbat. Il écrit ceci: « Ils s'interdisent aussi le plus rigoureusement parmi tous les Juifs de vaquer à leurs travaux le septième jour. Non seulement ils préparent leur nourriture la veille, de façon à ne pas allumer de feu ce jour-là, mais encore ils n'osent pas déplacer un objet ni aller à la selle, par respect pour la sainteté du jour. » Et nous lisons dans l'écrit de Damas, alors une très longue section relative au commandement du Shabbat, qu'est-ce qui est interdit de faire, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais juste pour vous donner quand même un petit avant-goût de l'ambiance de ces textes, de leur, justement de ce côté extrêmement strict, je vous lis quand même un large extrait. Donc, c'est à la colonne, aux colonnes 10 et 11 de l'écrit de Damas. Que personne ne court après un animal pour le faire paître hors de sa ville à plus de 2000 coudées. Qu'on ne lève pas sa main pour le frapper avec le poing. S'il est rebelle, qu'on ne le fasse pas sortir de son bâtiment. Que personne ne fasse sortir quoi que ce soit de la maison vers l'extérieur et ne fasse rentrer quelque chose de l'extérieur dans la maison. Et si l'on est dans une hutte, qu'on ne fasse rien sortir de celle-ci et qu'on ne fasse rien entrer dans celle-ci. Qu'on n'ouvre pas un vase scellé le Shabbat. Que personne ne porte sur soi des épices pour aller et venir le Shabbat. Qu'on ne soulève pas dans la maison d'habitation un rocher ni même une poussière. Que la nourrice ne porte pas le nourrisson pour aller et venir le Shabbat. Que personne ne contrarie son serviteur ou sa servante ou bien son salarié le Shabbat. Que personne n'aide à mettre bas un animal le jour du Shabbat. S'il est tombé dans une citerne ou dans une fosse, qu'on ne le fasse pas remonter le Shabbat. Et tout être humain qui tombera dans une pièce d'eau ou dans un autre lieu, que personne ne le remonte avec une échelle, une corde ou un objet quelconque. Alors évidemment, ça nous rappelle quand même un petit peu la discussion de Jésus avec les pharisiens dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, où donc Jésus, ayant effectué une guérison le jour du Shabbat, se voit mettre en cause par les pharisiens. Et il leur répond qu'ils sont des hypocrites, puisque si leur fils ou même un bœuf tombe dans le puits le jour du Shabbat, ils le remonteront. Et donc, a fortiori, s'ils sont prêts à faire ça, ils devraient accepter qu'on puisse guérir des gens le jour du Shabbat. Donc, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament ? C'est que les pharisiens, eux, considéraient comme acceptable de remonter un animal ou un être humain hors d'un puits le jour du Shabbat. Nous voyons là donc un débat halakhique, un débat sur l'interprétation de la loi au sein du judaïsme de l'époque de Jésus, avec d'un côté une position très rigoriste, celle des Esséniens, qui interdisent absolument de remonter l'animal tombé dans le puits, et qui interdisent de remonter l'être humain avec une échelle, une corde ou un objet quelconque. Ce qui pourrait peut-être laisser quand même ouverte la possibilité de le remonter à la main, mais alors à condition que ce ne soit guère profond quand même. Et donc voilà, donc vous avez d'un côté ces Esséniens extrêmement rigoristes dans leur interprétation des interdits du Shabbat, vous avez des pharisiens qui passent quand même pour être des gens assez sérieux dans l'interprétation de la loi, mais qui sont beaucoup moins stricts plus humains, pourrait-on dire, de notre point de vue, dans leur interprétation des lois. Et Jésus qui lui-même déborde un peu les pharisiens encore sur leur aile gauche, en allant vers quelque chose de encore plus soucieux du bien-être des créatures de Dieu. Donc voilà, vous voyez, ça dessine un peu un échiquier comme ça, où Jésus est quand même très aux antipodes de la position essénienne. Et on voit mal comment Jésus pourrait venir d'un milieu essénien ou être proche des Esséniens, alors que leur interprétation de la loi diffère à ce point. Sachant que la plupart des divisions du judaïsme à l'époque du Second Temple, donc à l'époque hellénistique et romaine, portent sur l'interprétation des lois bibliques. C'est vraiment le principal sujet de division. Ce ne sont pas tellement des considérations théologiques sur la nature de Dieu, comme ce sera le cas plus tard dans le christianisme, mais ce sont vraiment des divergences relatives à l'interprétation de la loi de Moïse. Troisième point qui me conduit à voir Jésus plutôt comme donc un pharisien un peu libéral et pas du tout un essénien, c'est que la prédication de Jésus, elle est plutôt de type exotérique et populaire, alors que l'enseignement des textes de Qumran, dans les textes communautaires de Qumran bien sûr, parce que je ressouligne à nouveau, il n'y a pas que des textes communautaires dans la collection de Qumran. Il y a toutes sortes de textes à Qumran, il y a des textes bibliques, toutes sortes de choses. Mais les textes esséniens, si vous voulez, trouvés à Qumran, eux, témoignent d'un enseignement vraiment ésotérique, réservé à des initiés, et avec une telle volonté de le dissimuler aux personnes extérieures à la communauté, que dans certains manuscrits, il est même écrit dans une écriture cryptée, dans un alphabet spécial, secret. Donc vous voyez un souci extrême de ne pas divulguer les enseignements des responsables de la communauté à l'extérieur. Et Joseph, à nouveau, Flavius Joseph, nous dit dans la guerre des Juifs qu'effectivement, il leur était interdit de rien transmettre de leur doctrine secrète à l'extérieur. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le modèle de Jésus et ses disciples allant sur les routes, prêchant comme ça aux uns aux autres, s'asseyant pour manger avec les uns et les autres un peu partout. Ici, on est dans un milieu du secret, de l'ésotérisme. Et dans plusieurs textes de Qumran, on voit que les enseignants inspirés de la communauté se considèrent justement comme les dépositaires de révélations particulières. Révélations qui peuvent toucher à l'interprétation de certains livres bibliques, notamment les prophéties, révélations sur la fin des temps, sur le déroulement de l'histoire, sur le moment du châtiment. Ce sont aussi des gens qui sont extrêmement obsédés par l'idée de la justice de Dieu et du châtiment imminent, qui vivent dans une très grande tension. Et ça caractérise quand même un petit peu le judaïsme de cette époque de manière générale. Et c'est particulièrement fort à Qumran. Et donc, ils ont des révélations spéciales sur tout un tas de sujets, à la fois l'interprétation de la loi, la révélation des temps derniers, etc. La quatrième raison pour laquelle je pense que Jésus est vraiment très éloigné des milieux esséniens, c'est que, comme je l'ai dit à un moment, ce sont des milieux d'origine sacerdotale. Tous les responsables de la communauté sont des prêtres. Et on voit qu'en fait, certaines lois du Lévitique, notamment relatives aux prêtres qui officiaient dans le temple à Jérusalem, qui faisaient les sacrifices, etc., sont reportées sur les membres de la communauté dans leur ensemble. Bien qu'une partie de ces membres ne soient pas des prêtres, au sens où ils ne sont pas de la tribu de Lévi, ils ne sont pas descendants de Kohanim, de prêtres. Quelles sont ces lois du Lévitique? Eh bien, le Lévitique précise qu'un prêtre qui a une infirmité physique, il est aveugle, il est sourd, il est boiteux, il a un nez de travers, c'est un gringalet, un bossu. Dans tous ces cas, il ne pourra pas servir en présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce serait une profanation de la sainteté divine. Il y a une notion sous-jacente, comme quoi l'infirmité physique est une sorte d'insulte à la perfection divine. Et donc ces prêtres-là ne peuvent pas célébrer les sacrifices, etc., comme un prêtre normal. Par contre, ils gardent leur statut de prêtre et ils continuent à pouvoir manger la part des prêtres dans les sacrifices. Si un prêtre, deuxième cas de figure, si un prêtre est en état d'impureté rituelle, je vous rappelle que l'impureté, dans les lois du Pentateuque, c'est avant tout un problème rituel, ce n'est pas un problème moral. C'est un problème lié au fonctionnement du corps. Voilà. Les femmes ont leurs règles, elles sont impures. Une femme donne naissance à un enfant, elle est impure pendant tant de jours, etc. De même, si le pied heurte un animal mort sur la route, on se retrouve en état d'impureté. Ce n'est pas grave. Il y a des bains rituels de purification pour rétablir la situation normale. Donc on se rend régulièrement impur et on se purifie régulièrement. Et tout ça n'a pas de connotation morale en soi. Mais simplement, l'impureté exclut tout contact avec le pur. Et donc tout contact, évidemment, avec les choses du temple, les sacrifices, etc. Donc un prêtre en état d'impureté rituelle ne peut pas non plus opérer les actions rituelles qu'un prêtre est censé effectuer. Dans la communauté de Qumran, ça donne que tous les membres qui sont affectés d'une infirmité physique ou dans un état d'impureté rituelle sont radicalement exclus de toutes les assemblées de prières de la communauté. À Qumran, il n'y a pas de sacrifice, on est loin du temple, mais il y a des assemblées où il y a une sorte de culte spirituel qui est rendu à Dieu. Visiblement, il se concevait comme en communion avec le culte célébré dans les cieux, par les anges, enfin, ils estimaient réellement que les anges étaient présents au milieu d'eux. Et donc, toute personne infirme ou impure, toute personne qui pourrait contaminer soit la pureté, soit la sainteté des anges et de la présence divine, devait être exclue des assemblées. Donc, là, il y a une très forte opposition entre ces pratiques des communautés esséniennes qui s'expliquent par un arrière-plan sacerdotal et les pratiques et les enseignements de Jésus rapportés par les évangiles. C'est tellement frappant que ça oblige même, nous allons le voir après, à supposer presque une polémique. En effet, qu'est-ce que fait Jésus? Quels sont les miracles qu'il accomplit? Eh bien, il est constamment en train de s'occuper de ces catégories de personnes, précisément celles-là qui sont exclues des assemblées esséniennes. Il ouvre les yeux des aveugles, il guérit des boiteux, toutes sortes d'infirmes, et, chose absolument stupéfiante, il purifie des lépreux, les impurs par excellence. Et le seul cas peut-être dans la Bible hébraïque où l'impureté a une connotation morale, puisque nous avons deux cas de récits, pas les textes de loi, mais deux cas de récits dans la Bible où la lèpre est un châtiment divin. C'est de Myriam, la sœur de Moïse, et puis c'est l'histoire de Naaman, le Syrien, et de son serviteur. Donc, là, il y a quand même déjà un précédent biblique pour, en plus, non seulement il y a une impureté rituelle, mais c'est aussi une faute morale. Donc, le cas des lépreux est particulièrement problématique. Et nous avons un texte de Qumran qui parle des signes qui vont accompagner la venue du Messie. Et dans ce texte, il est question du Messie qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va rétablir les boiteux, qui va même ressusciter les morts. Et en fait, c'est une reprise de tous les motifs du livre d'Isaïe, qui sont en fait des motifs messianiques et qui déjà annoncent tous ces signes que fera le Messie. Et dans l'évangile de Luc, à un moment, Jean le Baptiste envoie ses disciples vers Jésus avec cette question: es-tu celui qui doit venir? Et Jésus fait cette réponse, il dit: vous direz à Jean que vous avez vu que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les lépreux sont purifiés. Alors c'est très intéressant parce que jamais, ni dans les textes bibliques comme le livre d'Isaïe, ni dans les textes juifs extérieurs comme ce texte de Qumran que je viens de mentionner, jamais dans les signes relatifs au Messie, il n'est question des lépreux, de la purification ou de la guérison des lépreux. Jamais. C'est vraiment quelque chose qui est absolument spécifique à Jésus, par rapport à toute la documentation dont nous disposons. Or, c'est un signe extrêmement fort, parce que donc, c'est l'exclu par excellence. D'après les lois bibliques, il doit se tenir à l'extérieur de la ville. Il lui est interdit d'entrer, etc. Et Jésus, eh bien, il vient réinsérer ces personnes. Il vient les ramener dans la communauté. Et même si parfois, comme dans l'évangile de Marc, où il y a une scène de purification de lépreux, vraiment au tout début de l'évangile, on voit qu'il y a une certaine tension. C'est un peu comme dans la scène avec la femme syrophénicienne ou cananéenne qui vient le supplier pour sa petite fille. Et vous savez, ce texte très dur où elle finit par lui dire « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. » On sent qu'il y a une certaine tension, mais Jésus se laisse approcher par ces lépreux et va les purifier. Et donc, c'est une affirmation très forte par les évangiles, par les textes évangéliques, que Jésus incarne une sainteté qui n'a pas peur de la contamination de l'impureté. C'est une vision radicalement opposée à celle des textes de Qumran, pour qui l'impureté menace la sainteté. L'impureté est justement ce qui vient compromettre la relation avec Dieu, empêcher la communion, empêcher la célébration. C'est ce qui sépare de Dieu. Or, ce que les évangiles mettent en scène à travers les scènes de purification, c'est précisément une autre conception de la sainteté où Dieu, en l'occurrence, incarné dans la personne de Jésus, n'a pas peur de cette contamination de l'impureté. Donc on est là dans deux modèles de la sainteté radicalement opposés. Et puis, donc disons que ce point regroupe trois points, en fait, c'est-à-dire donc l'éloignement par rapport au modèle sacerdotal, le fait que Jésus jamais n'est proche des prêtres, plutôt toujours en conflit plutôt avec les milieux du temple, donc un éloignement très, très net de Jésus par rapport au milieu sacerdotal, un respect extrêmement relatif des lois de pureté de la part de Jésus, et ce souci permanent des infirmes, des lépreux, c'est-à-dire exactement des catégories de personnes qui sont vraiment les exclus dans les communautés esséniennes. Et j'y faisais allusion tout à l'heure, nous avons aussi donc, des cas de polémiques assez claires contre les enseignements des textes que nous avons trouvés à Qumran, des textes communautaires de Qumran, dans les évangiles. Alors on peut discuter, est-ce que cette polémique remonte vraiment à Jésus lui-même? Est-ce que c'est le milieu autour de Jésus? Enfin, en tout cas, ça témoigne, ça vient encore conforter cette opposition quand même assez radicale, assez profonde, à plusieurs niveaux, entre le type de judaïsme, qui est le judaïsme de Jésus, et le judaïsme essénien. Et je vous en donnerai deux exemples. Tout d'abord, le fameux passage de l'évangile de Matthieu dans les Béatitudes, dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Les exégètes se sont interrogés, mais enfin, c'est quand même curieux. Bien sûr, tu aimeras ton prochain, c'est Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, clair, mais tu haïras ton ennemi. Où dans la Bible, dans la Bible hébraïque, peut-on lire une affirmation pareille? Nulle part. Au contraire, l'ennemi personnel, par exemple, si on trouve son âne ou son bœuf en chemin, il faut le lui ramener, il faut s'en prendre soin. Nulle part il n'est prescrit de haïr son ennemi. Et la situation s'est nettement éclaircie quand on a trouvé les manuscrits de Qumran et qu'on a vu que le début de la règle de la communauté, qui décrit le rituel d'entrée dans l'alliance, de la nouvelle alliance de la communauté de Qumran, eh bien, nous dit la chose suivante. Donc c'est une instruction pour faire entrer tous les volontaires, ceux qui veulent pratiquer les préceptes de Dieu dans l'alliance de grâce, afin qu'ils soient unis dans le conseil de Dieu et afin qu'ils se conduisent devant lui de façon parfaite, selon toutes les révélations concernant leurs fêtes réglementaires, et afin qu'ils aiment tous les fils de lumière, chacun selon son lot dans le conseil de Dieu, et afin qu'ils haïssent tous les fils de ténèbres, chacun selon sa faute dans la vengeance de Dieu. Vous avez là un texte tout à fait typique du dualisme de certains textes de Qumran, hein, donc, avec ensuite l'instruction sur les deux esprits qui va reprendre et systématiser ce dualisme lumière-ténèbre, fils de la lumière, fils de ténèbres. Et donc en fait, ce texte de la règle de la communauté nous montre que c'était effectivement un enseignement essénien que de dire, de prescrire une interprétation restrictive de Lévitique 19-18, le prochain étant compris comme le frère dans la communauté, exclusivement, même pas le juif en général, le frère dans la communauté, et accompagné d'une exhortation à haïr les fils de ténèbres, c'est-à-dire très clairement tous ceux qui sont en dehors de la communauté, sans exception. Chacun selon sa faute dans la vengeance de Dieu. Et dans l'écrit de Damas, nous retrouvons aussi une interprétation extrêmement restrictive de Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, appliquée uniquement aux frères de la communauté. Chacun doit aimer son frère comme soi-même. Le mot a été remplacé par rapport au mot prochain qui est dans le Lévitique. C'est ici le mot frère, clairement au sens restrictif du membre de la communauté. Donc on voit là une polémique, et dans ce contexte, on peut aussi imaginer que la parabole du bon samaritain, hein, tout ce débat entre Jésus et un scribe sur « mais qui est mon prochain ?», tout ça prend aussi un autre relief. On voit qu'il y avait effectivement un vrai débat, qu'il y avait différentes positions dans la société juive de l'époque sur cette question du prochain, pas seulement sur la question qu'on imagine toujours, à savoir « est-ce que le prochain, c'est aussi le non-juif ?» Non, pas seulement ça. Est-ce que le prochain, c'est aussi le juif du courant adverse? Voilà, à Qumran, clairement, le prochain, ça n'est même pas tous les juifs. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi dans ce contexte que la parabole du bon samaritain doit être placée, sachant que, bien évidemment, ce récit, cette histoire du bon samaritain, elle dit aussi beaucoup plus que simplement le contraire du texte de Qumran. Elle dit beaucoup plus que simplement le fait que tout homme soit mon prochain, puisque en même temps, elle dit que ce n'est pas une question de catégorie juridique. Enfin, ce serait un peu long de rentrer dans l'exégèse de ce texte. Et puis, le dernier exemple, et ça c'est une interprétation qui a été proposée par David Flusser, qui était professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et qui a beaucoup travaillé sur... les rapprochements entre le judaïsme du Second Temple et le Nouveau Testament, et notamment Qumran et le Nouveau Testament. C'est un passage un peu étrange, un peu obscur du chapitre 16 de l'évangile de Luc, la parabole de l'intendant malhonnête ou injuste, mais avisé ou prudent. Hein, c'est l'histoire de l'intendant qui se fait mettre à la porte par son maître, et qui va trouver tous les débiteurs de son maître, et qui leur fait une bonne petite remise, un bon rabais, en disant, en gros, tu te souviendras de moi, et tu me le rendras. Et l'histoire, la parabole se termine d'une manière très paradoxale. Le maître félicita l'intendant injuste, parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que ne le sont les fils de la lumière. Alors c'est très curieux, parce que fils de la lumière ou fils de lumière, c'est une expression extrêmement rare dans le Nouveau Testament, et c'est l'unique occurrence dans les évangiles synoptiques. Et évidemment, on pense tout de suite au fils de la lumière de Qumran. Hein, c'est vraiment, dans les textes de Qumran, c'est très massif. Alors que viennent faire ces fils de la lumière ici? Et traditionnellement, souvent, les exégètes du Nouveau Testament interprètent ces fils de la lumière comme une référence aux disciples de Jésus. Hein, Jésus disant... parlant de ses disciples, disant, opposant ses disciples aux gens du monde. Mais il y a évidemment une autre manière de lire le texte, hein, qui est de prendre les fils de la lumière très au sérieux, et de dire qu'ici, ce sont les Esséniens qui sont visés. Ce sont eux, les fils de la lumière, qui ne sont pas avisés. Parce que, comme je disais tout au début, leur mise en commun des biens, elle est extrêmement restrictive. En fait, ce sont des gens qui cherchent à minimiser l'échange à la fois, y compris économique, commercial, avec l'extérieur. Je ne parle même pas de l'hospitalité. Il n'est absolument pas question de commensalité, de repas partagés entre membres de la communauté et les fils de ténèbres de l'extérieur. puisqu'il y a un problème de pureté et d'impureté. Et donc ce serait, en fait, donc d'après la théorie de David Flusser, ce serait, mais qui me convainc personnellement beaucoup, ce serait en fait un texte polémique vis-à-vis des Esséniens, condamnant leur refus des échanges avec les autres de manière générale, leur refus de s'engager dans des rapports à la fois de commensalité et de commerce, et de business, pourrait-on dire, avec, avec les fils de ce monde, les gens du monde. Et ce qui vient aussi corroborer cette lecture que fait David Flusser de ce texte, c'est l'expression « la richesse d'injustice », le « mammon d'injustice », qui a son équivalent exact en hébreu dans les textes de Qumran, avec le même sens, donc « richesse d'injustice ». Et là aussi, ce serait donc un autre indice que dans ce texte, ce qui se joue, c'est une polémique vis-à-vis du discours que tiennent les Esséniens sur le monde extérieur, sur les gens qui ne sont pas de leur communauté. Et on pourrait rapprocher ça, enfin, de l'enseignement de Jésus préconisant à ses apôtres d'aller dans les villes, les villages, d'entrer chez les gens, de recevoir leur hospitalité, quel qu'il soit, à la suite de Jésus lui-même, allant chez des péagers, des gens perçus comme infréquentables, et donc les exhortant à accepter l'hospitalité de tout un chacun, de manger ce qu'on leur offrirait, sans faire d'histoire, sans se préoccuper de règles particulières, de pureté ou d'impureté. Et donc voilà, vous voyez là, on a vraiment deux modèles vraiment antinomiques, de deux types de judaïsme tout à fait opposés qui se dessinent, avec des rapports à la loi diamétralement opposés, des rapports à la pureté et à l'impureté diamétralement opposés, et des rapports aussi à la capacité d'ouverture ou de fermeture, hein, une conception ouverte ou une conception fermée de la communauté, du groupe d'appartenance, et donc une conception très différente de la relation avec le monde, l'extérieur de la communauté. Voilà, pour toutes ces raisons, il me semble vraiment extrêmement peu probable que Jésus ait été un Essénien ou qu'il ait été de quelque manière proche de milieux esséniens. Il a peut-être eu de vraies rencontres et discussions avec des Esséniens. On ne peut guère les imaginer que dans une tonalité polémique. Voilà, maintenant, la parole est à vous pour toutes les questions que vous pouvez avoir.
Bon, je vous remercie beaucoup. Oui, on va peut-être poser des questions. Si vous voulez poser des questions, on va en prendre plusieurs à la fois. Et je vois déjà quelqu'un, une, deux, au bout, à droite.
Alors, j'ai essayé de trouver dans l'édition de la Pléiade des écrits intertestamentaires, et je n'ai pas bien réussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer où se trouvent dans la Pléiade les bénédictions, l'apocalypse araméenne et l'instruction où l'on voit le mot haïs, car je n'ai pas trouvé.
Alors, c'est la règle de la communauté, hein, pour l'instruction à haïr. Et donc ça va, vous l'aurez dans le volume Pléiade. Voilà. À la colonne 1, les lignes 7 à 11. Simplement, la Pléiade a été publiée en 1987, donc à un moment où l'ensemble des manuscrits de la grotte 4 n'avaient pas encore été publiés, et elle ne comporte que les grands textes trouvés dans la grotte 1, dans les années 50, plus quelques textes supplémentaires, comme 4Q Florilège, par exemple. Mais c'est une édition très partielle des manuscrits de Qumran. Il y a un projet de deuxième volume en cours depuis 20 ans, qui n'aboutit pas. Et maintenant, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé la collection de la bibliothèque de Qumran aux éditions du CERF, où nous publions l'intégralité des manuscrits en édition bilingue, avec donc l'hébreu, le grec ou l'araméen à gauche, la traduction à droite, des notes, des introductions. Alors, il y a deux volumes parus, mais notre principe d'organisation est tout à fait différent de celui de la Pléiade, ou différent d'une classification par grotte. Donc nous avons un premier volume avec les textes qui sont regroupés, disons, thématiquement autour de la Genèse, qui reprennent des thèmes de la Genèse. Et puis ensuite, le volume 2, qui est lui aussi paru, ce sont les textes en rapport avec l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Alors, quand c'est nécessaire, nous donnons également les fragments de manuscrits bibliques. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est nécessaire? Quand ils diffèrent significativement du texte massorétique, donc du texte reçu de la Bible hébraïque. Là, nous les publions, puisque nous voulons aussi que les gens puissent voir quel est l'apport de Qumran pour l'histoire de la rédaction des textes bibliques et donc à quel état du texte, quelle diversité textuelle existait à l'époque des manuscrits de Qumran. Donc nous allons normalement sortir le volume 3 autour du Deutéronome et du Pentateuque dans son ensemble cet automne. Voilà. Et puis il y a encore, en tout, il y aura une dizaine de volumes, puisqu'il y a pratiquement 1000 manuscrits à Qumran, dont la plupart sont en très mauvais état, sont des petits fragments, c'est assez pénible, c'est plein de trous, c'est plein de lacunes, il faut reconstituer, c'est parfois assez difficile de comprendre même de quoi ça parle, mais voilà, il y a quand même beaucoup de matériel, et en français, effectivement, nous n'avons pas encore donc c'est une édition complète, donc c'est à ça qu'on s'attache avec tout un tas de collègues francophones.
Oui, bonsoir, je suis étudiante au Centre Sèvres. Vous aviez parlé de manuscrits qui étaient cryptés. Et est-ce qu'on a pu les lire du coup, puisqu'on peut supposer que la clé de lecture s'est perdue? Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent?
Oui, on a pu déchiffrer cette écriture cryptée, tout à fait. Alors, ça ne paraît pas être des révélations si sensationnelles que ça, mais pour eux, certainement, ça avait une grande importance. On a, par exemple, un manuscrit. Alors, c'est un cas assez unique parce qu'il a un titre au verso qui dit « Midrash du livre de Moïse » ou « Interprétation du livre de Moïse ». Et de l'autre côté, c'est un texte crypté. Alors, on a, évidemment, donc, comme d'habitude, comme dans la plupart des cas, que des fragments. Et il est question de l'interprétation des passages du Lévitique, justement, en Lévitique 13, qui parle des maisons lépreuses. Hein? En fait, lépreuses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des sortes de moisissures qui apparaissent sur les murs de la maison. Et il y a tout un processus de purification qui est mis en place. Et ce texte donne une interprétation très intéressante, qui est une interprétation de type métaphorique, presque allégorique. En fait, allégorique dans quel sens? C'est-à-dire la lèpre comme la division politique qui s'installe à la cour du roi. Donc ils font un parallèle avec des cas de l'histoire biblique où il y avait des faux prophètes, des gens qui venaient dire du mal du vrai prophète au roi. Et ils font ce parallèle donc entre le cas de la maison lépreuse qu'il s'agit de purifier de sa lèpre et un milieu politique corrompu. Où la parole du prophète doit pouvoir être entendue. Alors, c'est très fragmentaire, donc c'est déjà une interprétation, ce que je vous dis là, mais voilà, c'est un cas de manuscrit en écriture cryptique qui propose une interprétation d'un texte de la loi. Voilà.
Est-ce que Jean-Baptiste, au cours de sa vie, a fait partie d'une communauté essénienne?
Alors, c'est une très bonne question, parce que la question se pose différemment pour Jean-Baptiste et pour Jésus. Parce que Jean-Baptiste, effectivement, lui, si on reprend les différents points, c'est un judéen. Son père est prêtre au temple de Jérusalem, donc c'est un prêtre. Il est dans les milieux sacerdotaux de Jérusalem. En plus, ensuite, il va au désert, pas très très loin de Qumran, par exemple. Il a des pratiques ascétiques, et il fait des immersions dans le Jourdain, nous disent les textes évangéliques, qui comporte une part de repentance. Donc il associe immersion rituelle, peut-être, point d'interrogation, et repentance pour des péchés. Or, ce qu'on observe dans les textes de Qumran, c'est que certains textes, qui sont déjà publiés, là, pour le coup, dans notre volume 2, justement, c'est les textes sur la pureté rituelle, ils associent eux aussi le fait de s'immerger rituellement dans un bain de purification et le fait de se repentir de ses péchés. C'est une période où la notion de pureté connaît des évolutions importantes et où effectivement on voit que dans certains milieux, il y a un lien plus fort qui est fait entre impureté physique et impureté morale. Ou bien sur le fait que le péché entraîne aussi une impureté physique, ce qui ne va pas du tout de soi, simplement une impureté morale. Donc, c'est un point de rapprochement. Il n'empêche que, quand on rentre un peu plus dans le détail, les textes de purification à Qumran parlent de purification répétée. Hein. Il ne s'agit pas d'une seule fois, il s'agit de problèmes qui se reposent régulièrement, malgré tout. Et donc de pratiques d'immersion répétées. Et nous avons beaucoup de bains rituels sur le site archéologique de Qumran, quand même une quantité assez impressionnante. Or, le baptême du Baptiste, c'est un baptême unique, a priori. Enfin, c'est vraiment, c'est quand même beaucoup plus proche du baptême de conversion juif, rabbinique, si vous voulez, ou du baptême de conversion chrétien, par la suite. C'est vraiment quelque chose, c'est un tournant, un moment où on prend une nouvelle direction dans sa vie, etc. Et la connotation rituelle n'est pas très claire. Enfin, on manque d'informations, puisqu'on n'a que les évangiles qui nous parlent de cette pratique baptismale-là. Donc par-delà ce rapprochement dans un premier temps, il y a aussi des différences. Hein, ça ne semble pas du tout être quelque chose qui est une pratique quotidienne, comme ça pouvait l'être à Qumran. Et puis, par ailleurs, il n'y a aucun élément précis qui se recouperait de manière précise, disons, entre l'enseignement, ou enfin tous les éléments d'information qu'on a sur Jean-Baptiste, et ce qu'on sait des textes de Qumran. Donc on reste quand même dans quelque chose d'assez général, qui finalement peut être tout simplement un certain climat de la Judée à cette époque-là. Parce que Flavius Joseph nous parle d'autres figures dans le désert de Judée. Flavius Joseph nous raconte qu'il a été étudié avec un ermite qui s'appelait Banus, qui vivait au désert, qui attirait aussi des disciples. Il nous parle de figures messianiques, il nous parle de plein de gens, c'est très intéressant. On voit qu'il y a toute une sociologie, il y a toute une faune. Il y a toutes sortes de groupes. En fait, ce n'est pas simplement les grands groupes qu'on connaît. C'était même encore probablement beaucoup plus riche et diversifié que ce qu'on imagine. Donc, un lien direct entre le Baptiste et les Esséniens, non, on ne peut pas l'établir avec certitude non plus. La probabilité, elle est pas nulle, mais il n'y a pas d'élément vraiment probant. S'il y avait vraiment un élément très très spécifique en commun entre le Baptiste et les communautés, en tout cas avec les textes qu'on a, comme la règle de la communauté ou l'écrit de Damas, là, on pourrait dire, oui, vraiment, quand même, c'est très très propre. Ça ne se rencontre que là et que là. On pourrait envisager avec plus de certitude un lien. Là, on peut dire, oui, ils ne sont pas très loin. Il y a une sorte d'air du temps, mais est-ce qu'il a été essénien ? On ne peut pas l'affirmer, en fait.
Oui, ce qui met un peu mal à l'aise avec ces textes de Qumran, c'est qu'on a l'impression que les chercheurs aussi s'en servent de toboggan pour leurs propres idées. Par exemple, le père de Vaux était parti sur ses théories avec deux manuscrits sur 900. Les textes changent souvent de nom au fur et à mesure. Ou alors là, par exemple, on parlait du texte des Béatitudes, alors qu'en fait, il est totalement parallèle au proverbe. Il aurait pu être appelé proverbe, mais il est appelé Béatitude. Alors, est-ce qu'on peut espérer un peu plus de recul dans les groupes de chercheurs?
Ben ça, c'est au public d'en décider. Mais il me semble que quand même la recherche sur Qumran est quand même un peu dépassionnée par rapport à la première période. Alors c'est vrai que le père de Vaux, qui était dominicain, a lu le site de Qumran en ayant à l'esprit le modèle du monastère, et qu'on a mis un peu de temps à s'en libérer. C'est ça le problème, c'est que quand vous défrichez un champ de recherche, vous êtes le premier et vous posez des jalons, eh bien ça marque ensuite l'histoire de la recherche et il faut parfois attendre effectivement un peu longtemps pour qu'on qu'on prenne un peu de distance critique par rapport à ça. Bon, il me semble que quand même aujourd'hui, notamment sur l'interprétation du site, il y a eu tellement de théories, j'ai envie de dire hélas, parce qu'on a vu une prolifération d'absurdités plus grandes les unes que les autres. Bon, moi je renvoie à ceux, pour ceux que ça intéresse quand même, au livre de Jody Magness qui a été traduit en français, qui me semble faire une synthèse très raisonnable de ce qu'on peut dire sur l'archéologie du site, sachant que on n'a pas encore accès aux résultats des fouilles, la publication des résultats des fouilles de Devaux n'est pas totalement achevée. Jean-Baptiste Imbert de l'école biblique y travaille en ce moment. Et il a quelques idées nouvelles qu'il n'a pas voulu totalement révéler lorsque j'étais à l'école biblique ces derniers mois. Mais donc voilà, il prépare un ouvrage. Et notamment la poterie de Qumran n'a pas été totalement publiée. Donc c'est un peu un problème parce que les dates, beaucoup de choses en archéologie sont liées à la datation de la poterie. Donc c'est un élément important. Donc le débat n'est pas clos, mais on a vu quand même la publication de beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, d'ouvrages qui visaient surtout, je pense, à faire vendre et à faire parler de leurs auteurs. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une très grande diversité de profils des chercheurs qui travaillent sur Qumran par rapport à la première équipe qui était composée de 7 personnes uniquement. Donc déjà, il y avait un problème de taille, vu la tâche qu'ils avaient à affronter. Et puis c'était essentiellement effectivement des chercheurs français, catholiques, il n'y avait pas du tout de juifs, ce qui quand même pour travailler sur une bibliothèque de textes juifs antiques était un peu dommage. Bon, maintenant tout ça a complètement évolué, hein. Depuis 1991, il y a eu une refonte totale de l'équipe, tous les textes sont publiés aussi aujourd'hui, donc ils sont vraiment, tout le monde les discute librement. Et des chercheurs de tous horizons, de tous horizons confessionnels, enfin, il n'y a plus vraiment de domination, je dirais, d'un groupe ou d'un... Ni d'un individu charismatique. Enfin, le débat se déroule à tous les niveaux. Donc il me semble que le climat est quand même plus sain et les discussions plus ouvertes et plus rigoureuses. Et qu'on a... Mais après, il y a des habitudes dans la recherche. Il y a aussi parfois des lourdeurs qui sont dues au fait qu'on n'ose pas remettre en question certaines choses... que les doctorants ne se sentent pas suffisamment légitimes encore pour, dans leur thèse, aller trop loin. Bref. Et dans les études sur Qumran, il y a énormément de présupposés, de choses qu'on ne peut pas réellement démontrer, en fait. Mais on travaille beaucoup avec des présupposés. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de recul critique pour arriver à se libérer de ces présupposés et à essayer de repartir vraiment des choses... voilà, quels sont les... Vraiment, les faits, les données brutes. Mais vous savez, même les données brutes, c'est difficile. Hein. Parce que, par exemple, l'archéologie, même dire quelles sont les données brutes du site, ce n'est pas si simple. Hein. Bon, mais déjà, repartir des manuscrits, de ce qu'il... Par exemple, aussi, une des choses qui a été très critiquée, c'était la reconstruction par certains collègues de certains textes. Alors, c'est une critique qui est un peu malhonnête, je trouve, parce que de toute façon, les crochets indiquent toujours ce qui est dans le manuscrit et ce qui n'est pas dans le manuscrit. Si on fait attention aux crochets, on voit toujours ce qui a été vraiment lu, déchiffré sur le manuscrit et ce qui a été proposé comme reconstitution par le chercheur. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas familiarisé, et comme ça crée un texte cohérent et qui se lit de manière un petit peu plus linéaire, on peut être pris par un effet de réel, c'est-à-dire... voilà. Mais ça, c'est un problème de formation. C'est-à-dire qu'il faut juste, effectivement, faire très attention et ne pas prendre les reconstructions pour du texte qui serait là. Après, et chacun est libre, reste libre de publier sa propre reconstitution.
Oui. Je suis statisticien et j'ai lu un article où il disait des méthodes statistiques pour démontrer que l'une des grottes, je ne me souviens plus de son numéro, était complètement hétérogène aux autres grottes. Alors ça pose le problème de savoir si tous ces manuscrits sont effectivement d'origine essénienne ou est-ce qu'il y avait une grotte ou plusieurs grottes qui étaient occupées par des manuscrits provenant d'une autre tradition. Alors, c'est la question que je me suis posée en lisant cet article, où moi, évidemment, c'était ma technique statistique, parce que c'était sur mon domaine de recherche qui m'intéressait. Mais, alors ça, c'est la première question que j'aurais posée. La deuxième question, quand les troupes romaines sont venues dans le coin, que sont devenus les Esséniens? Est-ce qu'on sait qu'ils sont dispersés? Est-ce qu'ils ont eu une postérité ou... Enfin, quel a été l'avatar de la communauté lorsque le poids lourd des légions a tremblé dans le coin, quoi.
Alors, je vais commencer par la deuxième question parce que c'est plus simple. Alors, on sait que les Romains ont occupé le site de Qumran à un moment. Donc, il n'y avait plus d'Esséniens, de toute évidence. Ça a servi d'un petit poste pour l'armée romaine. Et on n'a plus aucune trace des Esséniens par la suite. Ils semblent s'être volatilisés, dispersés. Sauf qu'on sait qu'on a quand même quelques textes, des manuscrits qui sont assez typiquement qumraniens, enfin, des textes très spéciaux comme la Nouvelle Jérusalem, etc., bon, dont on a trouvé des copies à Masada. Il n'est pas impossible qu'à un moment, des gens de Qumran, ou peut-être même d'une autre communauté d'ailleurs, se soient réfugiés à Masada. Mais en gros, à partir de la fin du 1er siècle, on n'a plus trace de ces gens-là. Sauf que on a des copies médiévales de l'écrit de Damas dans la Guénisa du Caire au Moyen-Âge, donc retrouvées au XIXe siècle par Salomon de Scherter. L'écrit de Damas, c'est quand même un des grands textes communautaires de Qumran. Comment se fait-il qu'au Moyen-Âge, des juifs a priori quand même, aient copié ces textes en hébreu, en Égypte? C'est quand même un grand mystère. C'est-à-dire, quel groupe juif a préservé ces textes pendant quasiment 10 siècles pour qu'on en ait des copies datées du Moyen-Âge au Caire et qu'elles parviennent jusqu'à nous au XXe siècle? C'est très stupéfiant. Alors, je n'ai pas de réponse. Je dis juste que voilà, c'est un fait qu'il y a eu des gens qui ont copié ces textes. On n'en sait pas plus. Et la seule chose qu'on sait sinon, c'est qu'on sait qu'il y a eu au moins... On a deux témoignages chrétiens de trouvailles de manuscrits dans des grottes à côté de la Mer Morte. Origène, au IIIe siècle, il fait allusion. Et un patriarche nestorien du VIIIe siècle, il fait allusion aussi. Il dit, voilà, on a trouvé une grotte, il y avait des manuscrits anciens. Donc, peut-être que certaines grottes à manuscrits ont déjà été visitées à d'autres moments dans l'Antiquité. Mais... ça n'explique pas les copies médiévales, par ailleurs, puisque ces copies sont médiévales, j'insiste. Le parchemin, la copie est médiévale. C'est-à-dire qu'on a continué à copier un texte qui remontait au moins au IIe siècle avant notre ère, jusqu'au Moyen-Âge. Quelle communauté qui a copié ces textes? Qui les a transmis? Donc il y a dû y avoir quand même des petits groupes, il y a dû y avoir quelque chose. Est-ce que, par exemple, ces Esséniens auraient un lien avec les Karaïtes, le mouvement... du judaïsme karaïte qui apparaît à la fin de l'Antiquité, mais on en est réduit, il n'y a pas non plus vraiment de preuves de quoi que ce soit. Donc ça, c'est la réponse à votre deuxième question. C'est effectivement, après la guerre contre Rome, les Esséniens, il n'en reste plus grand-chose, on ne sait pas. Peut-être que certains se sont convertis au christianisme, puisqu'on a cet ovni dans le Nouveau Testament qui est l'épître aux Hébreux, avec une terminologie sacerdotale et des considérations sur Melchisédek, qu'on dirait tout droit tiré d'un manuscrit de Qumran. Est-ce que cet épître aux Hébreux n'est pas dû à un Essénien converti au christianisme? Bon, bref. Donc le champ des possibles est grand. Mais les certitudes sont nulles. et pour revenir à votre première question, alors d'abord, je clarifie ce point sur lequel je n'ai pas dû être claire. Les manuscrits trouvés à Qumran, dans les 11 grottes de Qumran, ne sont pas du tout tous des manuscrits esséniens. Mais alors vraiment, très loin de là, on est même dans des révisions à la baisse. Et en fait, on a des critères très subjectifs pour définir ce qu'est un manuscrit, enfin un texte essénien ou pas essénien, où on dit communautaire ou sectaire. Certains disent qumranien, mais ça ne veut rien dire, parce que Qumran, c'est simplement le lieu de la découverte. Donc... 10% de la collection, 20% de la collection. Il y a des textes juifs de toutes sortes dans cette collection. Mais en même temps, il n'y a pas toute la littérature juive connue de l'époque non plus. Ce n'est pas non plus forcément représentatif. Voilà, il y a de la diversité. Il y a des livres bibliques. Il y a 20% de manuscrits bibliques dans cette collection de manuscrits. Ce ne sont pas des manuscrits esséniens. Ils n'ont pas été nécessairement copiés par des esséniens. Ils ont peut-être été achetés par une communauté essénienne. Alors on sait quand même qu'il y a quelques manuscrits qui ont été copiés à Qumran même. Pourquoi on le sait? Parce qu'on a fait des analyses de l'encre. Et il y a, dans certains manuscrits, une encre qui a été faite avec de l'eau de la mer morte, avec qui a des teneurs en sels minéraux très particulières. Donc là, oui, on peut savoir qu'elle a été copiée sur place. Mais sinon, on a tout ce qui touche à l'histoire de la collection elle-même. Comment elle est arrivée dans ces grottes? Comment ces quasiment 1000 manuscrits sont-ils arrivés dans ces grottes? Pourquoi tel manuscrit dans telle grotte, etc. En fait, on est dans une grande ignorance. On a beaucoup d'hypothèses. On fait des scénarios, on imagine des choses, mais c'est très très difficile. Alors, je pense que vous faites allusion à l'article de mon collègue Daniel Stöckel-Benezra, qui un article qui s'appelle Young Caves and Old Caves, ou l'inverse, donc des vieilles grottes et des grottes jeunes, où il a fait une analyse statistique très poussée, effectivement, et où il arrive à la conclusion. Oui, et alors il arrive à la conclusion qu'effectivement, en moyenne, la date paléographique des manuscrits des grottes 4 et 1 est plus ancienne que celle des autres grottes. Et donc, la conclusion importante à laquelle il aboutit, c'est que c'est impossible d'être dans un scénario du type « c'était la bibliothèque du Temple de Jérusalem et on a tout apporté en hâte au moment de la guerre contre Rome et on a caché à la hâte les manuscrits de manière aléatoire dans les grottes, etc. » Ça, ce scénario-là, il est exclu. Il est exclu pour ces raisons statistiques et aussi pour d'autres raisons de vraisemblance. Après, c'est sûr que quand on regarde quels manuscrits ont été trouvés dans quelles grottes, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, pourquoi la grotte 7, il n'y a que des manuscrits en grec? Mais en même temps, comme je vous dis, certaines grottes ont pu être visitées au cours de l'histoire. On n'est pas sûr qu'on avait réellement le dépôt originel dans chaque grotte. Vous voyez, il y a tellement, tellement de facteurs d'incertitude que c'est très difficile de se prononcer. Alors, on peut penser aussi, puisque Joseph nous dit qu'il y avait des communautés partout en Judée. On peut très bien imaginer qu'il y avait une des communautés était à Qumran, qu'ils avaient des manuscrits, ils étudiaient, ils copiaient éventuellement des manuscrits, mais que d'autres communautés aussi avaient leurs manuscrits pour leur étude communautaire. Et qu'à un moment, on a voulu regrouper tout ça parce que c'était effectivement peut-être un lieu un peu plus sûr pour préserver ces manuscrits. Ça, c'est par exemple une hypothèse possible. Mais il y en aurait d'autres. Il y en aurait d'autres. Mais ça paraît très difficile, par contre, de penser que c'était la bibliothèque du temple à cause des textes communautaires esséniens, si vous voulez, qui témoignent d'un éloignement par rapport au temple, qui sont quand même vraiment très clairement dus à des prêtres en rupture avec le temple. On a par exemple ce fameux texte qu'on appelle dans notre jargon barbare 4QMMT, qui vient de MMT, c'est pour Miktsat Maaseh Torah, qui veut dire en hébreu à propos de quelques œuvres de la loi, qui est un texte unique en son genre à Qumran, mais nous en avons une dizaine de copies, donc c'est quand même un texte qui leur paraissait extrêmement important. Et ce texte est une sorte de lettre adressée à un chef politique où un groupe dit qu'il faudrait quand même qu'on applique la loi selon leur interprétation des lois, contrairement à ce que fait un autre groupe Z, qui, lui, ne comprend pas bien les lois et met très clairement en danger le culte au temple parce que ils ont des pratiques qui font qu'il y a des impuretés. Enfin, voilà, quoi. Donc, la pureté du sanctuaire est menacée. C'est très intéressant. C'est-à-dire, on se situe à quel moment? Peut-être au tout début de l'histoire du mouvement communautaire, peut-être avant la rupture avec le temple, à un moment où ils essayent encore de faire une sorte de réforme des pratiques dans le temple, et puis ensuite, voyant que leurs demandes ne sont pas reçues, ne sont pas écoutées, eh bien, ils font carrément sécession et se contentent d'un culte spirituel dans leur communauté. Mais, vous voyez, c'est une interprétation possible de ce texte. Mais en tout cas, ce sont des milieux, on voit mal ce genre de texte conservé dans la bibliothèque du Temple. Ça, ça paraît une invraisemblance, tout simplement pour des raisons de bon sens. Voilà, mais en tout cas, pour revenir au premier point, c'est vraiment, ce ne sont pas exclusivement des textes esséniens, vraiment loin de là, loin de là.
Mais vous posez quelques questions. Je m'appelle Le Goff, je suis ici,
oui.
Je suis doctorant. Donc, si je comprends bien, vous estimez que le rapport entre l'essénisme et le christianisme naissant n'existe pas. Les raisons que vous nous avez données sont tout à fait recevables. C'est pas la tendance générale. On a plutôt la tendance à dire que, effectivement, il y aurait une forte influence entre le christianisme et l'essénisme, notamment via Jean-Baptiste. Mais enfin, on peut très bien sortir des sentiers battus. Ce n'est pas moi qui vous le reprocherai. Et je ne me permettrai pas de vous reprocher quoi que ce soit, mais vous faire part certains malaises, parce qu'il résulte de votre exposé qu'on a face à face deux mouvements, l'un appelé un grand avenir et l'autre qui disparaîtra. C'est le christianisme d'une part, naissant sous l'action de Jésus de Nazareth, et puis d'autre part les esséniens. Alors vous avez dit tout à l'heure, en répondant à la question d'une intervenante là, qu'il y avait beaucoup de groupes, et vous avez ajouté plus diversifiés qu'on imagine. On ne fait pas que les imaginer, on connaît aussi leurs noms. Et je voudrais signaler à ce propos qu'avant les découvertes de Qumran, des Esséniens, on ne connaissait que le nom. N'est-ce pas ? Donc, si je vous cite 10 ou 12 ou 13 noms de sectes qui pullulent à l'époque de Jésus, eh bien, s'il n'y avait pas eu la découverte de Qumran, ces noms seraient à égalité. Et l'exposé que vous devriez faire, c'est non pas le rapport entre le christianisme et l'essénisme, mais entre le christianisme et ce pullulement de sectes. Est-ce que je rajouterais, j'aurais encore
beaucoup mais, de choses. Mais cher monsieur, proposez-nous une conférence, nous viendrons vous écouter avec grand bonheur.
J'ai mon agenda, je viens de Bretagne, mais je reviendrai volontiers. Quand vous voulez. Et donc, nous parlerons du christianisme et des sectes, parce que ce qui n'est pas dit, c'est que le judaïsme, au temps de Jésus, est un judaïsme d'élitement. On ne l'explique pas autrement. Et on ne comprend pas la naissance du christianisme si on n'est pas conscient que le judaïsme archaïque est en train de mourir, d'en finir. Et que le judaïsme que connaît Jésus de Nazareth est sur sa fin. Nouveau va.
Voilà, je me garderai d'avoir ce genre de jugement de valeur sur le judaïsme de l'époque de Jésus. Je voudrais simplement resituer mon propos. Je n'ai pas parlé du christianisme et essénisme. Je me suis absolument limitée à la figure de Jésus. On m'a posé la question pour Jean-Baptiste, j'ai dit ce que j'en pensais, mais mon exposé s'intitulait « Jésus à la lumière des manuscrits de la Mère Morte » et je l'ai délibérément centré sur qu'est-ce que les manuscrits de Qumran peuvent nous apprendre par rapport à ce que les évangiles nous disent de l'enseignement, la personnalité, les comportements qu'a eu Jésus de Nazareth. La question du rapport entre le christianisme et l'essénisme est une toute autre question, beaucoup plus vaste, qui nécessiterait encore quelques heures, au minimum, pour que nous puissions aborder la chose avec sérieux. Donc, j'ai mentionné au début le fait qu'on pouvait rapprocher des pratiques, comme par exemple la mise en commun des biens, les repas communautaires, la notion de temple ou de communauté comme temple spirituel. Et j'ai aussi fait allusion au fait que peut-être il y avait eu des Esséniens convertis au christianisme et que l'Épître aux Hébreux me semblait un texte avec de forts points communs avec certains textes de Qumran. Donc je n'ai pas du tout clos le débat sur le rapport entre christianisme et essénisme. Je dis simplement que Jésus, lui, d'après la documentation dont nous disposons, me semble aux antipodes des milieux esséniens. Ensuite, ce que deviendra le christianisme, c'est une toute autre histoire. Et donc la discussion est ouverte, et je pense par exemple notamment sur l'Épître aux Hébreux, ça a été très travaillé, il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a aussi eu beaucoup de travaux sur les Épîtres de Paul, pourquoi est-ce que dans la deuxième en Corinthiens il est tout d'un coup question de Bélial, qui est quand même une grande figure d'ange mauvais dans les manuscrits de Qumran, pourquoi à nouveau on retrouve dans certaines Épîtres cette notion de fils de lumière et de fils de ténèbres. Mais tout ça est à discuter de manière précise au cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout généraliser. Et si vous voulez, ce qui de toute façon distingue radicalement le christianisme de tous les courants du judaïsme de l'époque, c'est le fait qu'il soit aussi centré sur la figure de Jésus-Christ et qu'il interprète l'histoire biblique à la lumière de la figure de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve dans aucun autre courant du judaïsme, à moins que vous discutiez sur le judéo-christianisme, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est le marqueur principal. Après, on peut débattre de plein de choses, mais la grande différence, c'est la figure de Jésus, c'est la référence au Christ. C'est ça. Et la figure de Jésus ne se réduit pas à aucun modèle messianique juif de l'époque. C'est ce à quoi je faisais allusion, par exemple, à propos des lépreux. Il y a des originalités, des spécificités de la figure de Jésus, telle qu'elle est construite évidemment dans la documentation du Nouveau Testament, au modèle messianique juif connu à l'époque. Et donc bien sûr, après on peut discuter sur des points d'organisation, sur des points d'angélologie par exemple. Le christianisme, que voulez-vous, ça reste quand même une branche du judaïsme à la base. Donc bien sûr, il y a des tas de choses qui restent communes, il y a des tas de choses, sur des tas de points, il y a des influences, c'est très clair.
Oui.
Voilà la question.
Voilà. C'est quand même très intéressant de savoir où se trouvent, vous haïrez vos ennemis. Donc le texte que vous avez trouvé est vraiment très intéressant. Mais le problème, moi j'éprouve une petite difficulté, c'est que vous faites porter sur les Esséniens un poids extraordinaire, un peu comme si les Esséniens, enfin on avait trouvé, c'était l'incarnation de l'intolérance. Moi je me suis demandé, mais alors, est-ce vraiment intéressant d'étudier ou de lire les textes de Qumran? Et donc, moi j'ai quand même tendance à me demander si ces groupes n'étaient pas persécutés, mais peut-être qu'ils se persécutaient les uns les autres. Et puis, j'ai aussi tendance à me poser la question de certains psaumes, dont certains versets, nous sommes dispensés de les lire en milieu chrétien, à cause de leur violence. Donc, finalement, est-ce que cette haine, ou cette intolérance, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait dire, car de toute manière, l'intolérance est un terme moderne, anachronique, mais des Esséniens, est-ce qu'il ne faudrait pas, disons, la contextualiser à son tour avec, disons, les difficultés que posent certains versets des psaumes?
Oui, c'est très pertinent. J'aime beaucoup votre question. Ça rejoint des questions que je me suis posées également. En réfléchissant sur Bible et éthique, ou religion et éthique, justement. Et effectivement, on a dans des versets des psaumes qui parle de la haine des ennemis de Dieu. Les versets des psaumes, évidemment, il y a aussi des psaumes qui disent tout simplement « Vivement que mes ennemis soient à terre et qu'ils soient écrasés par toi, Seigneur, etc. etc. » cela dit, on ne peut pas non plus dire que ce soit un enseignement systématique, du type de l'instruction qui est là donnée aux nouveaux entrants dans la communauté. Le psaume, on est vraiment dans un autre genre, et c'est le cri de détresse de celui qui souffre, qui est écrasé, etc. Bon. Ce qui n'est pas non plus le cas dans cette instruction au début de la règle de la communauté. C'est pas, alors qu'on a, par exemple des prières. Alors dans un contexte de prière, peut-être on pourrait mieux comprendre. Ici, c'est vraiment un rite d'entrée dans l'alliance. Donc ces paroles qui sont prononcées dans le cadre d'un rite d'entrée dans l'alliance, ça revêt quand même une signification autre, me semble-t-il, que les imprécations contre les ennemis qu'il y a dans les psaumes. Cela dit, là où il y a une certaine cohérence théologique, effectivement, vous mettez le doigt sur un point très problématique pour l'histoire des religions en général, c'est que il y a une différence entre la haine de ses ennemis et la haine des ennemis de Dieu. Et même Jésus, son enseignement, c'est « tu aimeras ton ennemi ». Mais il ne dit rien de l'ennemi de Dieu. Et je ne sais pas, je ne veux rien conclure de ce silence de Jésus, ni dans un sens ni dans un autre. Je pense qu'il y a des manières de répondre, hein, mais c'est un long débat. Mais simplement, il faut être conscient qu'effectivement, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je pense à des textes monastiques du IVe siècle, des moines d'Égypte, hein, où, bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton ennemi, etc., mais qui aime bien châtie bien aussi. Et finalement, l'ennemi, quand c'est l'ennemi personnel qui vous a fait un tort à vous, on peut encore effectivement appliquer le précepte évangélique, mais quand il s'agit de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire de l'hérétique, hein, l'ennemi par excellence pour les moines, enfin l'abomination par excellence, c'est même pas le païen ni le juif, c'est l'hérétique chrétien. Enfin, alors là, il n'y a aucun amour du prochain possible, c'est la haine de celui qui est l'ennemi, pas personnel, mais l'ennemi de la communauté chrétienne, parce qu'il fait rentrer la fausse doctrine, hein, qui va perdre la communauté. Et donc l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Christ, l'ennemi de Dieu. Et il n'y a aucune charité vis-à-vis de l'ennemi de Dieu. Donc c'est un problème qui se pose de manière récurrente, qui est un vrai problème pour l'éthique, dans un contexte religieux, dans un contexte monothéiste, parce qu'on a la même chose dans le judaïsme et la même chose dans l'islam, c'est que, effectivement, cette différence très importante entre l'ennemi personnel, avec qui, bon, j'ai un différent personnel, mais ça reste un niveau humain, et l'ennemi pour motif religieux, c'est-à-dire celui qui blasphème, celui qui menace la vérité ou la sainteté de la communauté, etc. etc. Et là-dessus, il y a des choses, oui, il y a des textes juifs qui sont très violents, il y a des textes chrétiens très violents, et c'est un problème structurel des monothéismes, à mon avis.
En fait, j'avais une question donc, par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, que il s'agissait de milieux d'origine sacerdotale. Et est-ce qu'ils sont donc liés vraiment aux tribus de Lévi, justement, donc la tribu traditionnelle? Et quelles sont, dans ces grandes lignes, les différences de rites qu'on peut voir entre ceux du temple et ceux des prêtres de Qumran? Et est-ce qu'on a justement quelques éléments sur la vie quotidienne de ces communautés à l'époque, par exemple le nombre de prières par jour ou ce type d'éléments?
Alors, donc, dans les communautés esséniennes, disons, enfin, telles qu'on peut les connaître par la foi, je reviens à ce que disait monsieur avant. C'est pas vrai que les Esséniens, on les connaît que de nom jusqu'à la découverte de Qumran, comme d'autres groupes dont on connaît de nom par les sources rabbiniques, parce qu'on a les descriptions de Flavius Joseph, de Philon d'Alexandrie et de Pline. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup plus que simplement leur nom. Déjà, Flavius Joseph nous donne un luxe de détails sur ce groupe. Et donc, à la fois par le témoignage de Joseph et par les textes même de Qumran, on voit, alors d'abord, une précision, les membres de la communauté. Il y a des prêtres, il y a des lévites, il y a des israélites, et il y a ce qu'on appelle en hébreu des guérim. Ça, c'est un problème compliqué, parce que le guer dans la Bible hébraïque, c'est l'étranger résident, mais en fait résident au milieu du peuple d'Israël, avec une condition, avec quand même pas mal d'aspects religieux déjà. Donc, et par la suite, dans le judaïsme rabbinique, ce sera le converti au judaïsme. Donc vous voyez, c'est pas non plus n'importe quel étranger qui séjourne au milieu des fils d'Israël. Et donc on a ces quatre catégories dans les textes de Qumran. Et donc tout le monde n'est pas prêtre au sens généalogique du terme. Ensuite, sur leur pratique, sur la manière dont ils envisageaient le culte, donc on a ces textes, par exemple ce texte 4QMMT, texte polémique, où ils disent qu'en gros, un autre groupe, qui est visiblement un groupe de prêtres aussi, puisque quasiment toute leur discussion tourne autour de lois relatives au temple et au culte. Sur les mariages des prêtres, sur la pureté des instruments, des ustensiles pour les sacrifices, des tas de choses comme ça. Donc, on voit bien, ils ont une manière d'interpréter les lois cultuelles, relatives au culte au temple, différentes d'autres groupes de prêtres. Et aussi, ils ont une manière, éventuellement, des calendriers différents. C'est très intéressant que dans un des textes qu'on a lu tout à l'heure, notamment ce fameux début de la règle de la communauté où il est prescrit de haïr les fils de ténèbres, il est aussi question des révélations concernant leurs fêtes réglementaires. Et un des grands débats, visiblement, et un des grands conflits entre groupes juifs, c'était conflit autour du calendrier. Quel calendrier adopter? Parce que, en fonction du calendrier que vous choisissez, s'il est complètement solaire, lunisolaire, encore un autre modèle éventuellement, vous n'aurez pas les fêtes au même moment de l'année. Or, dans une certaine conception du monde et du temps, il faut absolument que, par exemple, la fête de Kippour soit vraiment célébrée à la date prévue dans les cieux. Hein, il ne s'agit pas de le célébrer un autre jour. Ça la rendrait nulle et non avenue. Il n'est pas question de célébrer Shabbat à un moment qui ne serait pas Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les questions de calendrier sont absolument cruciales. Et on voit qu'il y a une partie des conflits tournés autour de ces questions de calendrier. Par ailleurs, on a des détails sur l'organisation des communautés. On n'a pas véritablement d'informations sur le nombre de prières quotidiennes, par exemple, cette question que vous posiez. On a des règlements de mesures disciplinaires, par exemple. Si un membre se permet de cracher pendant l'assemblée des nombreux, c'est un des noms dont ils s'appellent eux-mêmes, les nombreux, alors il sera exclu pendant un jour, pendant trois jours, parfois définitivement. Enfin bref, il y a toutes sortes, on a toutes sortes d'informations sur des modes de fonctionnement, mais pas nécessairement sur toutes les questions pour lesquelles on aimerait avoir des réponses. Donc on a des informations, mais pas sur tout. Voilà, on a des informations partielles.
Oui, bonsoir. Je voulais vous interroger sur les fragments grecs, dans lesquels certains ont cru voir des fragments, je crois, d'une épître de saint Paul ou d'un fragment d'évangile, alors que vous avez rapidement envoyé dans les poubelles de l'histoire, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles on avait cru y lire des fragments du Nouveau Testament et les raisons pour lesquelles vous pensez que ça ne se justifie pas?
C'est très simple. Hein. Le fragment grec en question a été identifié avec un passage de l'évangile de Marc sur la base d'un kai et d'un noun suivi d'un guimel, c'est de l'hébreu, d'un gamma, à la ligne suivante, c'est-à-dire quelque chose de totalement ridicule que vous pourriez trouver dans des tas de textes grecs. C'était vraiment purement idéologique, ça émanait de gens plutôt protestants évangéliques américains qui voulaient à tout prix prouver l'ancienneté de la rédaction des évangiles. Et qui pensaient qu'ils avaient trouvé par là le moyen de prouver que les évangiles étaient rédigés dès les années 40, etc. C'était ça l'enjeu, hein. Et il y a deux chercheurs dans le monde entier qui ont défendu ça, et vraiment, je peux vous assurer que tous les chercheurs qui travaillent sur les manuscrits bibliques de Qumran aujourd'hui, considèrent ça comme nul et non avenu. Enfin, c'est absolument ridicule, compte tenu du peu de textes qui restent dans le manuscrit. Alors, de manière générale, les fragments de textes grecs, ce sont presque tous des manuscrits bibliques, hein, donc des traductions grecques de livres de la Bible hébraïque. On a comme ça des fragments de traduction du livre des Nombres, du Lévitique, du Deutéronome. C'est plutôt intéressant pour une histoire de la critique textuelle parce que c'est pas forcément la version de la Septante. Il y a des variantes par rapport à la version de la Septante, d'après les fragments qu'on a. On a peut-être aussi une traduction grecque du livre d'Enoch. Mais beaucoup de fragments sont tellement minuscules qu'on ne peut juste rien dire en fait.
Vous avez évoqué un peu le Jean-Baptiste, mais il a eu une grande postérité. On le voit dans les Actes des Apôtres, à propos d'Apollos, etc., et puis d'autres qui se réfèrent très explicitement à Jean-Baptiste. Donc, il y a une rupture entre l'enseignement de Jésus et puis ce qu'avait fait Jean-Baptiste. Alors, ça n'a pas été simple. Alors, est-ce que, justement, Jean-Baptiste était peut-être, justement, à cause de cette proximité que vous avez dit, à la fois d'un milieu sacerdotal et puis judéen, donc il a été peut-être plus proche, lui, justement, des thèses esséniennes?
C'est une hypothèse, mais je répète ce que je disais à madame tout à l'heure, c'est que, à mon sens, on n'a pas d'éléments probants ni dans le Nouveau Testament, ni dans les textes de Qumran, ni ailleurs, on n'a pas de documentation nous permettant d'affirmer avec certitude que le Baptiste ait été proche de milieux esséniens, enfin qu'il ait eu des véritables contacts avec eux, ou qu'il ait été lui-même un essénien qui aurait ensuite quitté le mouvement. Ou... On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Et dans le Nouveau Testament, on subodore des conflits entre le groupe des disciples de Jésus et le groupe des disciples du Baptiste. Mais sur quelle base, ça reste totalement flou. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils étaient proches des Esséniens, parce qu'ils avaient une interprétation de la loi comme ceci ou comme cela. Bah, c'est très très flou. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous pensez à un texte qui nous éclairerait, mais moi je ne vois pas d'éléments permettant de clarifier vraiment cette histoire. Alors, ça peut être simplement... des conflits autour de la reconnaissance ou non de Jésus comme le Messie, et donc est-ce qu'il faut se rallier au groupe des disciples de Jésus ou pas, et puis des questions de pouvoir hein, aussi avec ça, mais j'ai l'impression que c'est très obscur et que c'est un peu difficile d'arriver à des conclusions très claires sur les motifs hein, de la tension entre les disciples du Baptiste et les disciples de Jésus. À part des questions de prééminence et de pouvoir et de mon maître est plus grand que ton maître, etc.
Oui, vous nous avez montré l'originalité du message de Jésus par rapport aux doctrines et pratiques esséniennes et même pharisiennes. Est-ce qu'on sait s'il y avait au temps de Jésus des courants de pensée judaïques plus proches du message évangélique ?
D'autres sources juives qui renseigneraient des positions comparables à celles de Jésus, vous voulez dire, c'est ça ? Qui annoncent Jésus ? Non. Vous voyez que comment les textes du Nouveau Testament construisent hein, leur perception de Jésus comme accomplissement des prophéties bibliques. Ils ne font pas référence à une autre littérature, une petite référence au livre d'Enoch, mais qui n'est pas christologique, qui n'est pas en lien avec Jésus. Non, on voit bien que toute la littérature qui est citée comme faisant autorité, comme annonçant Jésus-Christ, ce sont des livres de la Bible hébraïque. Mais sinon, est-ce que d'autres textes pourraient être rapprochés ? Non. Non, enfin, après, ça dépend sur quel point, après, on ne peut pas être aussi général, hein, mais il n'y a pas de texte décrivant une figure... Hein, qui aurait les caractéristiques du Jésus des évangiles. Par exemple, dans les descriptions messianiques, qui restent, comme vous l'avez vu, très tributaires aussi de la Bible hébraïque. Hein. On est quand même dans une tradition qui se construit par accumulation, mais qui n'est pas toujours très originale hein, dans ses développements. Et puis, non, après, si vous avez un point précis en tête, tel ou tel aspect du ministère de Jésus, avons-nous un parallèle ? Mais je vous dis non, il y a quand même un ensemble d'éléments. Si vous voulez, on pourrait essayer, par exemple, de comparer Jésus avec des maîtres de la tradition rabbinique. Par exemple, Hillel, qui était son contemporain, bien que les descriptions d'Hillel soient beaucoup plus tardives, puisque les textes rabbiniques sont tardifs. Et il y aurait sûrement, je veux dire, des aspects comparables, par exemple, des faiseurs de miracles. Hein, on pourrait trouver des figures de maîtres juifs, enseignants, charismatiques, faiseurs de miracles. Donc sur cet aspect-là, on pourrait comparer. Après, je ne suis pas sûre que les miracles aient le même sens. Parce que comme j'ai essayé de vous l'expliquer, les miracles de Jésus... d'une part, ont un sens messianique. Hein, donc j'accomplis à peu près tous les signes qui, déjà dans le livre d'Ésaïe, sont rattachés au Messie et qui, dans d'autres textes juifs, après, sont rattachés au Messie. Plus d'autres, comme la guérison des lépreux. Mais ils ont un sens, quand on les articule avec certaines paraboles, hein, comme la parabole du banquet, hein, allez chercher, faites-les rentrer, allez chercher les boiteux, les aveugles, etc., faites-les rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le banquet, c'est le royaume de Dieu. Donc, c'est vraiment l'idée que ces catégories de personnes-là, Jésus les les fait rentrer à nouveau dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Je vous ai expliqué contre quel type de représentation ça pouvait se concevoir. Et ça, je ne vois pas du tout ces aspects-là dans les miracles des rabbins, thaumaturges ou ce genre de choses. Je ne vois pas le même message attaché au signe. Les miracles en eux-mêmes peuvent avoir plusieurs sens. C'est toujours le problème du comparatisme. Il ne faut pas isoler un élément, il faut à chaque fois tenir compte du contexte et du sens qui est donné à cet élément dans son contexte. Mais voilà, la figure de l'enseignant, ben oui, bien sûr, on peut trouver des parallèles. Donc je vous dis, la figure du thaumaturge, de celui qui fait des miracles. Il y a eu des parallèles qui ont été faits aussi entre Jésus et les cyniques, hein, les maîtres de sagesse itinérants du monde grec, etc. Bon. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que oui, mais c'est ponctuel, c'est partiel. Et la figure de Jésus dans son ensemble, et avec le sens que veulent lui donner les textes, moi je ne vois pas d'autres exemples. Mais bon, peut-être qu'il faut que je cherche encore.
Oui, vous avez esquissé tout à l'heure un mot sur l'archéologie et les poteries. Est-ce que l'on sait à peu près dater quand, à quelle période auraient été stockés ces manuscrits dans les grottes et à l'occasion de quel événement historique ou de prudence ?
Oui, on a un petit peu évoqué tout à l'heure la question des circonstances, hein, de la constitution de la collection dans les grottes. Donc, la poterie, oui, on la date. Les manuscrits, on les date paléographiquement. Donc, on peut élaborer des scénarios, des hypothèses, mais on ne peut pas arriver à une conclusion certaine. Si vous avez une jarre, mettons, datée du tournant de notre ère, est-ce que ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été déposée dans la grotte à ce moment-là ? Elle peut avoir été déposée dans la grotte 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Un manuscrit, c'est pareil. On a des manuscrits, je vous rappelle, qui vont de la fin du 3e siècle avant jusqu'au 1er siècle après. C'est la date de copie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moment où ils ont été apportés dans la grotte, bien sûr. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a des éléments de datation, mais qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion historique sur comment ça s'est passé ? Comment ces manuscrits ont été apportés là ? Pourquoi ? Par qui ? Dans quelles circonstances ? Là, l'archéologie est très insuffisante. Alors, il y a des analyses qui ont été faites qui montrent que certaines argiles viennent de tel ou tel endroit, en Judée, Palestine. Donc, effectivement, on peut savoir que telle jarre, elle n'a pas nécessairement été fabriquée là, ou en tout cas, pas avec une argile locale. On peut, avec des analyses comme ça, un peu affinées, mais ça pose encore plus de questions que ça n'apporte de réponses. C'est-à-dire, ah, bien, donc il y avait une diversité des provenances des argiles et des jarres. Bien, 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 mais alors ? Mais voilà. Alors, certains pourront y voir une preuve que la thèse selon laquelle on a apporté des manuscrits de différentes communautés en Judée en sort renforcée, c'est-à-dire, puisqu'il y a une pluralité d'origine aussi de certaines jarres, on peut peut-être aller jusqu'à dire que justement ça va dans le sens d'une pluralité d'origine des manuscrits. Mais même ça, on peut le déconstruire. Hein, parce que vous pouvez avoir un manuscrit qui aurait été copié à Qumran, mis dans une jarre qui venait d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quelle est la logique si on essaie de raisonner de manière vraiment rigoureuse, on peut envisager vraiment beaucoup, beaucoup d'explications pour les mêmes données. On n'est pas obligé de privilégier nécessairement tel ou tel. Alors évidemment, la manière dont on procède, nous, c'est d'essayer de voir quand même quelle est l'hypothèse qui rassemble, qui fédère le plus d'éléments, hein, donc qui est la plus satisfaisante ou, disons, la moins insatisfaisante, plutôt. Mais donc voilà, je suis désolée, j'ai peu de réponses à vous apporter sur l'histoire du dépôt des manuscrits dans les grottes. Alors, à Masada, on a des manuscrits bibliques, hein, mais on a aussi quelques manuscrits qui sont du même type que ceux qu'on a à Qumran. Des copies différentes de manuscrits dont nous avons des copies à Qumran. Or, ce sont des textes quand même très particuliers qu'on n'a retrouvés que à Qumran. Donc, ça pose quand même la question, là, d'un lien entre ces deux groupes. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'autres grottes dans le désert de Judée où on a retrouvé de la documentation, souvent un peu postérieure, plutôt deuxième siècle après. Et c'est très différent. La plupart des autres grottes du désert de Judée, elles contiennent principalement des documents de la vie quotidienne. Des lettres, des contrats, des listes, des choses comme ça. Peu d'œuvres littéraires, d'œuvres religieuses. Qumran et Masada sont différents parce qu'il n'y a pratiquement aucun document de la vie quotidienne, très très rares exceptions. Ce ne sont pratiquement que des textes littéraires et religieux. Vous voyez ? Donc des profils de corpus très différents selon les endroits. Et donc c'est pour ça que, visiblement, Masada Qumran, il y a dû y avoir un lien à un moment. Mais on peut très bien imaginer que, comme on sait que Masada, ça a été le dernier bastion de résistance contre les Romains, on peut très bien imaginer que quelques personnes des environs de la Mer Morte soient réfugiées à Masada en emportant avec eux leurs précieux rouleaux. Et voilà. Mais là aussi, hein, on a un constat. Hein, là, il y a quand même une similitude et une différence par rapport à d'autres sites du désert de Judée. Mais après, on est livré on doit se limiter à des hypothèses.
On va écouter encore une question.
Que je vous pose une question un peu en dehors du sujet. Parce que voilà, Jésus faisait des miracles. Et si j'entends bien, à l'époque, beaucoup de personnes faisaient des miracles. Comment explique-t-on ça? Est-ce que c'est une figure de style? Ou est-ce que ça existait vraiment? Et pourquoi maintenant personne ne fait des miracles? Est-ce que c'est parce qu'il y a la médecine, les psys? C'est quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps et je me permets de vous poser cette question.
Alors, je ne travaille pas du tout sur ces questions. mais non, ça c'est trop facile. Non, mais... alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense, regardez en Afrique, en Amérique latine et même en France, vous trouverez des tas de gens qui vous raconteront des récits de miracles. Donc, je pense que la notion de miracle, elle est totalement actuelle. Simplement, on peut y croire ou ne pas y croire. Hein. Tout comme, je pense, dans l'Antiquité, certaines personnes y croyaient et d'autres personnes n'y croyaient pas du tout. Hein. Il y a aussi des miracles dans le monde grec, dans le monde romain. Il y a des apparitions des dieux, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et il y a eu toujours des esprits caustiques pour dire que c'était vraiment de la rigolade. Et puis d'autres gens qui y croyaient, hein, qu'ils aient été juifs, grecs ou romains. Donc, je veux dire, mais le phénomène du miraculeux n'a absolument pas pris fin à la fin de l'Antiquité. Je vous assure que notre monde contemporain est plein de témoignages de miraculés, de miracles, etc. Après, la question, c'est est-ce que vous y accordez foi ou non ? Donc, c'est une question qui n'est absolument pas de l'ordre de la compétence de l'historien. L'historien ne se prononce pas sur la nature des miracles. Il essaye de comprendre le fonctionnement des sociétés humaines. Mais alors, se prononcer sur la nature du surnaturel, est-ce que c'est réel ou pas ? C'est vraiment de l'ordre de la conviction religieuse de chacun. C'est pas du tout une... C'est comme aussi, par exemple, si vous me demandiez de dire « Mais alors Jésus était-il vraiment le Messie ?» En tant qu'historienne, je n'ai pas à répondre à cette question. Hein ? C'est une question qui relève de la foi individuelle de chacun. Reconnaître en Jésus le Messie ou pas. Ce que je peux vous dire en tant qu'historienne, c'est que très clairement, les gens qui l'ont suivi et les gens qui ont écrit sa vie dans les évangiles voyaient en lui le Messie davidique, le Messie politique... Et qu'en même temps, ils ont été un peu bousculés parce qu'il n'a pas rempli le rôle attendu d'un messie politique. Et que, visiblement, d'après les paroles de Jésus qu'ils nous ont transmises, il a lui-même redéfini largement ce que c'était que le royaume. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on voit dans les textes. Mais après, l'historien, lui, ne se prononce pas sur la question absolue de Jésus était-il le messie ou n'était-il pas le messie ?
Voilà, je pense que nous avons fini notre soirée. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler des textes exhumés sur le site de Qumran et qui nous ont éclairés sur le rapport avec le message de Jésus dans la grande différence Merci.